France Inter, le 18-20.
Bientôt les vacances et vous êtes un certain nombre à avoir fait un choix, mais pas un choix de destination, un choix d'esprit, de mode de vacances, un choix plus écolo, responsable, des vacances plus vertes, mais pas seulement, des vacances décarbonées. La tendance existe, certains disent qu'elle est responsable et indispensable, d'autres totalement bobos et que d'ailleurs, de toute façon, les vacances qui impliquent l'avion sont des vacances de riches et c'est un peu vrai. Surtout si l'on songe, et on y viendra, que c'est le low cost qui disparaîtrait le plus vite si on se mettait à redonner au vol en avion leur vrai prix et si l'on taxait le kérosène. Mais ce qui est intéressant en ce moment dans nos destinations, c'est qu'on est finalement tous en transition. On fait attention toute l'année au plastique, au circuit court. Quand on habite là où le transport public est efficace, on n'a pas de voiture, on fait du vélo en ville et on mange moins de viande. Et si on pouvait aussi, au fond, être flexitarien dans nos envies de voyage, quand on a les moyens. C'est un peu la dernière réticence, le voyage du citoyen en transition, le passage difficile, le vrai renoncement. Alors peut-être qu'il y a plus facile à aller chercher des lieux plus insolites, plus proches, un autre dépaysement, y aller en train, y aller en bateau, réhabiliter les trains de nuit, mettre la voiture dans le train, imaginer différemment ou compenser peut-être, s'autoriser l'été ce qu'on s'interdit à l'année, planter des arbres comme l'un de nos invités. Vacances décarbonées, faut-il en arriver là? Quand c'est qu'on y arrive, comme on dit dans la voiture? Soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Fabienne Synthès, le téléphone sonne.
Allez, pour commencer, c'est vous François-Xavier, bonsoir et bienvenue au téléphone sonne.
Bonsoir, merci de votre accueil. On parle de vacances, on parle de voyage. Oui, ben alors c'est vrai que la question telle qu'elle était posée là m'a, je suis en train de commencer à préparer juste en ce moment mes vacances 2021. Ça ne pourra pas se passer avant. Et elles seront, ce sera sans doute mes dernières, ou enfin, tu vois, c'est le dernier grand voyage que je prévois. Et ce sera vers le nord, avec une étape forcée obligatoire à Reykjavik, et je l'imagine uniquement en train plus bateau. Bateau si possible cargo, je l'imagine en train jusqu'à Copenhague, et ensuite prendre un bateau, je sais qu'il y a à peu près 3 jours de traversée, pour aller jusqu'à Reykjavik, et puis après repartir vers la Norvège, la Suède, et enfin le tout en tout cas, totalement sans avion, oui.
Et la raison pour laquelle vous voulez le faire sans avion, François-Xavier, c'est pour les raisons qu'on dit, ou c'est aussi parce que vous avez du temps? Est-ce que ça va vous prendre combien de temps d'aller jusqu'à Reykjavik, peut-être plus loin?
Ah, j'en sais rien, oui, alors c'est ça va être forcément des grandes vacances. Bon, théoriquement, je n'ai plus de contraintes de temps, de contraintes professionnelles, choses comme ça. Je peux me permettre de commencer mon voyage à partir du moment où je tourne la clé dans la porte de ma maison. Mmh. Là, le voyage, il commencera là. Donc, j'ai vraiment envie que le voyage, il dure tout le temps où je ne serai pas chez moi.
Et qu'est-ce que vous dites de l'empreinte carbone du cargo que vous allez prendre pour faire ce trajet-là?
Alors j'en sais rien, bon, à
François priori, Xavier.
Il semble... Oui, je sais pas, bon, il transporte pas que des passagers, il transporte pas que des touristes, le cargo. Enfin, j'imagine, il sert aussi à l'économie, par exemple, l'Islande c'est une île, il me semble qu'elle doit avoir beaucoup de son approvisionnement qui se fait par bateau, et c'est sans doute le seul moyen qu'elle puisse commercer avec les autres. Alors, je vais essayer de me donner une bonne conscience en me disant ça.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette entrée en matière, François-Xavier, parce que d'abord, on vous souhaite bon voyage en 2021, même si c'est loin, ça va être formidable. Et aussi parce que finalement, le témoignage de François-Xavier, c'est à la fois ce qu'on essaye tous d'être, les efforts qu'on essaye faire, comment essayer d'être irréprochable, et parfois c'est pas simple, ou parfois aussi sur certains morceaux de trajet, c'est finalement une fausse bonne idée, on y viendra tous ensemble. Tout l'intérêt de ce débat avec notamment Jean-François Rial. Bonsoir.
Bonsoir.
PDG de Voyageurs du Monde. Nous avons Guillaume Cromer au téléphone, dans les studios à Strasbourg, à France Bleu Strasbourg. On salue nos amis de Strasbourg également. Bonsoir Monsieur Cromer.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association Acteurs du Tourisme Durable. Vous avez arrêté de prendre l'avion d'ailleurs, vous allez nous raconter. Puis Philippe Lefebvre est avec nous également. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Spécialiste de tourisme et de transport aérien à France Inter. C'est vous
Jean-François... C'est moi qui prends l'avion, non, c'est ça?
Oui, c'est vous qui prenez l'avion autour de cette
mal,
table.
Malheureusement pour moi.
Jean-François Rial, vous voyez réagir déjà au témoignage de François-Xavier.
Oui. Ben oui, il est passionnant ce témoignage, parce qu'il y a quelque chose qui est formidable dans ce que va faire François-Xavier, c'est qu'il va voyager lentement, ce qui est une forme de voyage particulièrement intéressante, parce qu'elle vous permet de vraiment pénétrer la vérité profonde des pays que vous traversez. Donc moi, je ne peux qu'approuver cette façon de voyager. Par contre, son bilan carbone risque d'être absolument catastrophique, bien pire qu'en avion, parce que les trains sont décarbonés en France, globalement, on va dire, un peu moins ailleurs. Et les cargos, alors là, malheureusement, je dirais tout le transport maritime, est une catastrophe ambulante.
Vous prêchez pour votre paroisse un peu, Jean-François
Non,
Rial,
non, pas complètement, parce que franchement pas, parce que je suis un des rares dans mon secteur à dire qu'on peut pas continuer à voyager en avion sans proposer une solution. Donc je pense qu'on ne peut pas non plus voyager en bateau sans proposer une solution, mais on ne peut pas non plus continuer à surfer sur internet sans proposer de solution. Il y a une particularité très forte au transport aérien, hein, dans cette affaire du carbone. C'est que vous pouvez faire une transition écologique très très forte sur l'électricité, sur l'agriculture et sur les voitures dans les objectifs de délai donnés par le GIEC. On se rappelle que c'est moins 50% en 10 ans et moins 100% en 30 ans. Vous ne pouvez pas le faire sur l'avion. Donc, sur l'avion, c'est impossible technologiquement parlant, hein, dans les délais. On peut le faire, mais pas dans les délais.
Mais on peut progresser, c'est-à-dire...
Alors, on peut progresser.
Ça veut dire qu'il peut y avoir moins de trafic, moins d'avions, c'est moins de trafic.
Ça va être marginal. On va progresser avec un peu moins de trafic, avec les vols intérieurs en train, si on a des connexions sur Roissy pour permettre à Air France de fonctionner. Mais ça va être marginal. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Soit on abandonne l'avion, soit on absorbe les émissions qu'on émet.
Il n'y a pas d'entre-deux.
Je ne crois pas.
J'aimerais bien votre avis, Guillaume Cromer, là-dessus. Vous qui avez arrêté de prendre l'avion, vous aussi, au fond, vous êtes d'accord avec Jean-François Rial là-dessus. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est on le prend ou on ne le prend plus du tout.
Et moi, ce que je propose, c'est de le prendre et d'absorber.
J'ai arrêté de prendre l'avion en France, mais après, je m'accorde un voyage, un long voyage, pour tous les trois ou quatre ans, je pense.
D'accord.
C'est pas calé complètement. Par rapport à ce que dit Jean-François, je pense qu'il a clairement raison sur la question du niveau qu'on doit atteindre. C'est clair qu'aujourd'hui, les moins 45% d'ici 2030, on n'y est pas du tout et on n'y arrivera pas sur l'aérien. C'est complètement impossible aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de nouvelles solutions technologiques qui arrivent. Donc après, est-ce que derrière on doit trouver des solutions? Je pense que il faut déjà qu'on arrive pour chaque individu à mesurer son bilan carbone de manière générale et de voir comment est intégré l'avion là-dedans, quoi.
Mais est-ce qu'on peut vraiment mesurer chacun notre bilan carbone de tous les jours? Est-ce que c'est
bien
pas
sûr.
Aussi
mais, si on peut.
Mais le simple fait, vous serez d'accord avec moi là-dessus, le simple fait, et moi je continue à prendre l'avion, je le dis franchement, le fait d'arrêter de conduire une voiture par exemple, ou même d'être en circuit court, ça compense pas l'aller-retour Paris-New York qu'on fera à la fin de l'année.
Bien
si,
sûr que non, vous avez 100% raison. Je dirais que l'avion est bien plus important que le reste. Donc déjà, comptez votre avion. Moi, par exemple, vous voyez, moi je suis voyagiste, je voyage à titre professionnel, à titre personnel, j'ai un bilan carbone absolument désastreux, et pourtant je suis un écologiste ultra convaincu. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai deux solutions, soit j'arrête de prendre l'avion et j'arrête mon métier, soit je me dis, je vais militer pour que tous mes confrères, tous les professionnels, tous ceux qui voyagent, absorbent les émissions qu'ils émettent. Moi, je suis à 200% d'absorption, à titre personnel. Mon entreprise, 100%, ça c'est autre chose. Mais moi, à titre personnel, pour éviter toute polémique, toute ambiguïté,
donc
etc.
Donc vous vous donnez bonne conscience. On est très nombreux comme ça, d'accord
avec cette affaire de bonne conscience. Je trouve ce terme parfaitement inadapté. Parce que, si vous voulez éviter ce concept, moi je dis que c'est simple, il faut plus voyager en avion. J'ai certains de mes amis écologistes qui le pensent. Quand j'en discute avec Cyril Dion ou avec Jean-Marc Jancovici, qui sont des amis, qui sont des écologistes ultra convaincus, ils sont
qui sait calculer votre empreinte carbone.
Ils sont convaincus qu'il faut arrêter de voyager en avion. Pourquoi pas? Moi, c'est pas mon opinion, j'ai le droit de penser autrement.
On va retourner au standard dans un instant. Philippe Lefebvre, moi je disais tout à l'heure en lancement, mais j'espère que je ne me suis pas trompé. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins réduire les voyages en avion? Est-ce que ça, pour le coup, c'est à notre portée, à la portée de main, assez facilement?
On peut, pour certaines destinations. Aujourd'hui, je pense que ça ne viendrait plus à l'idée de personne de prendre l'avion pour faire Paris-Londres, par exemple. Ça prend un temps fou, effectivement, c'est très polluant, ça viendrait plus à l'idée...
Il y a encore plein de gens qui font des Paris-Londres.
Mais l'Eurostar, je trouve que c'est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et surtout moins polluant. Pour certaines grandes destinations, Marseille, par exemple, Toulouse, ça peut être aussi intéressant. Le prix, il n'est pas vraiment très différent. Si vous regardez, par exemple, un Paris, j'ai fait le calcul cet après-midi, un Paris-Marseille ou un Paris-Toulouse, on est pratiquement en avion et en train au même tarif.
Puis selon les jours et les moments, de toute façon, ça va être du simple double dans un sens ou dans l'autre.
Et vous parlez de l'Eurostar, il vaut mieux partir le jeudi à 23h en fermant un œil quand même.
Ça dépend, non, vous pouvez trouver
l'avion et vous rajoutez le taxi, à mon avis, l'Eurostar va rester très compétitif.
Et puis, alors, ce qu'il faut savoir aussi, on parlait de l'aérien tout à l'heure, dans une semaine, va se tenir le salon du Bourget, on va beaucoup parler de l'avion électrique. Ouais. Bon, l'avion électrique, tous les spécialistes vous disent pas avant 30 ans. Mm-hmm. Il y a EasyJet qui va présenter un projet, mais ça ne marchera pas.
C'est l'avion à hydrogène vert qu'il faut faire. Ça marchera jamais, l'avion électrique. Vous avez ça marchera sur les distances courtes. Par contre, l'hydrogène vert, ça marchera. Mais dans 30 ou 40 ans. Voilà. C'est pour ça que moi, je dis, avec mon histoire de compensation et d'absorption de contribution planète, avec 10 euros par tonne de CO2, vous êtes en carbone neutre.
On va y venir à votre compensation. Quand je voudrais qu'on fasse un
De l'absorption. Je suis contre la compensation.
Ah bah attendez,
je suis
ça
pour l'absorption.
Pareil. Alors attendez, on va y venir. Je voudrais juste qu'on n'oublie pas de faire des allers-retours. Laissez-moi parler, Jean-François Rial. J'aimerais juste qu'on fasse un aller-retour au standard d'abord. Gwenaëlle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute, allez-y.
Alors d'abord, je voulais vous remercier de nous laisser la parole tous les soirs de cette façon-là au cours de cette belle émission et vous donner mon opinion donc sur cette empreinte carbone durant les vacances pour les voyages scolaires, pour les voyages que l'on peut faire au cours de ces vacances. Moi, au quotidien, j'essaie d'avoir une vie assez vertueuse. J'ai eu des bonnes habitudes de mes grands-parents, de mes parents, de ne pas gâcher, de ne pas utiliser de choses trop polluantes. Je n'ai pas de voiture, donc je n'utilise que les transports en commun, ou je me déplace à pied, ou je me déplace en vélo au quotidien. J'essaie vraiment d'avoir une empreinte carbone à minima. Mais j'estime que je peux, une fois le temps, alors en l'occurrence parce que j'ai pas beaucoup de moyens, c'est plutôt une fois tous les 4 ans, prendre l'avion pour partir un petit peu loin d'ici. Et je trouve que c'est culpabiliser les gens que de leur faire porter le poids de cette responsabilité, de dire voilà, vous polluez en prenant un avion. Peut-être que les personnes qui ont peut-être une vie moins vertueuse au quotidien trouvent un alibi à renoncer à prendre l'avion de cette façon-là. Mais voilà, moi je trouve que c'est bien de pouvoir le faire quand même une fois de temps en temps et que ça n'impactera pas de toute façon, de façon trop importante, puisque les vols aériens, ils n'arrêteront pas pour autant.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Gwenaëlle. Merci vraiment. Je voudrais rajouter celui de Philippe qui nous dit « Nous vivons en Allemagne, nous trions les poubelles correctement, nous déplaçons majoritairement en vélo, nous ne mangeons pas trop de viande, nous avons des ampoules basse consommation et ainsi de suite. Par contre, en revanche, nous voyageons à l'étranger, nous prenons l'avion pour les grandes vacances et nous n'avons pas envie d'arrêter. » Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'équipe Gwenaëlle et dans l'équipe Philippe, Jean-François Rial.
Non mais, c'est très intéressant ces deux exemples, parce qu'en fait, les gens ne vont pas au bout des choses. Elle nous a expliqué sa vie très vertueuse, magnifique.
Ne culpabilisez pas Gwenaëlle.
Mais pas du tout. Je ne vais pas la culpabiliser. Je dis que ce qu'elle fait, finalement, ne sert à rien.
Parce qu'en prenant un avion. Non, ne culpabilisez pas Gwenaëlle, Jean-François Rial.
En prenant l'avion une fois tous les 3 ans, elle a fini par avoir un bilan carbone qui est catastrophique. Parce que malheureusement, l'avion, par personne, est trop cher. C'est génial ce qu'elle fait par ailleurs. Moi, je le respecte beaucoup. Je dis juste que comme on voit bien qu'une personne très vertueuse comme Gwenaëlle, ça va pas suffire. Moi, je dis que ma solution est bien meilleure. C'est-à-dire que quels que soient les avions qui soient pris, en ayant fait un maximum d'économies, hein, avant, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, moi, je dis qu'il faut neutraliser les émissions de carbone sur l'avion à 100%. À 100%.
Donc, mais vous neutralisez tout le monde. Vous neutralisez comment?
Ah bah, c'est très simple. On plante, dans mon entreprise, on plante 4000 arbres par jour. 4000 arbres par jour, qui absorbent l'équivalent du carbone que nous émettons. Et c'est des arbres en plantation additionnelle. Je précise bien, parce que ça, je le vois venir. Vous plantez des arbres qui n'auraient jamais été plantés si vous ne l'aviez pas fait. Et donc, vous absorbez le carbone. Mais vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez faire des techniques d'absorption de carbone qui peuvent être différentes, comme les sols vivants, qui vont être beaucoup plus puissantes que, par exemple, les arbres.
Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Enfin,
je ne sais pas comment Gwenaëlle va faire ses sols vivants. Mais ce n'est pas vrai. C'est 10 euros la tonne, Fabien. Quand elle va au Costa Rica, Fabienne, une fois tous les 4 ans, elle va émettre 3 tonnes de CO2. Donc, on va lui prendre 30 euros sur son vol. C'est à la portée de tout le monde. Et on va être en neutralité carbone. Ça vaut quand même le coup. Alors que les Allemands, si vertueux qu'on nous évoque là tout à l'heure sur un tas de sujets, ils nous font de l'électricité au charbon qui émet un CO2 délirant. Il y a un moment donné, il faut être un petit peu juste, quoi.
Est-ce qu'il y a une surface suffisante sur Terre pour planter autant d'arbres qu'il y a d'aller-retour en avion?
Alors,
je rappelle qu'il y a à peu près 4 milliards de vols là en ce moment.
C'est très simple. Il y a 3000 milliards d'arbres sur Terre. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut Polytechnique de Zurich qui dit qu'on peut en planter 1300 milliards de plus. Et sur ces 1300 milliards de plus, 30 milliards suffiraient à rendre le carbone neutre pour les avions. Et si vous les plantez tous, ces 1300 milliards, vous auriez plus d'émissions de carbone pendant 10 ans, toute activité confondue.
Et qui, à part vous, donc moi à mon niveau, je plante, pardon, hein, à mon niveau, puisque vous avez fait le calcul, je fais un Paris New York, c'est combien d'arbres et où est-ce que je les mets?
Ah ben c'est pas compliqué, c'est 3 tonnes, il vous faut, je dirais, une quinzaine d'arbres, entre 10 et 12 arbres, et vous les mettez pas vous, parce que vous, c'est pas réaliste, il faut que ce soit tous les intermédiaires, les compagnies aériennes, les tours opérateurs, les agences de voyage, tous ceux qui vendent vos voyages, qui s'en occupent. C'est ça l'idée de la contribution planète, qui alimente un fonds, qui plante des arbres, et qui alimente pas un budget fiscal d'un État dont on ne sait pas ce qu'on fait de l'argent.
Dit le monsieur Jean-François Auriel, pardon de rappeler que vous êtes PDG de Voyageurs du Monde, donc vous faites voyager les gens en avion, il faut rappeler aussi les choses. Guillaume Cromer, moi j'aimerais votre avis là-dessus, cette compensation que Jean-François Auriel ne veut pas appeler compensation, j'ai bien compris. Attendez, juste une seconde, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, Guillaume Cromer. Est-ce que l'un peut effacer l'autre, on va dire?
Non, je pense que c'est pas suffisant, clairement. Aujourd'hui, le problème des auditeurs qui prennent la parole et qui disent, voilà, moi je prends un voyage tous les 4 ans, c'est pas eux le problème. C'est pas eux qui ont l'impact majeur. La grande problématique, c'est quand même les gens qui voyagent régulièrement en avion et qui vont prendre l'avion tous les mois et demi et qui vont faire des courts séjours dans les grandes capitales européennes. Et là, c'est eux où il va falloir qu'ils modifient aussi derrière, en fait, leur manière de voyager. Parce que là, leur bilan carbone est vraiment très très mauvais. Et à partir de là, il faut arriver à déconstruire l'imaginaire de l'ailleurs pour essayer de voir qu'on peut aussi voyager et faire du dépaysement de proximité. Donc, bien entendu que pour les voyages très lointains où il y a passé des beaux voyages comme même le monsieur qui prenait le cargo pour aller en Islande, il faut absorber, mais derrière on peut pas continuer en fait à voyager comme un fou partout dans le monde et derrière absorber. Il va falloir quand même qu'on diminue parce que le bilan, il est trop mauvais et derrière en fait, il y a une urgence climatique qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui, elle est là et donc il va falloir quand même réduire le nombre de notre impact carbone.
Est-ce qu'on sait déjà, Philippe Lefebvre, je ne veux pas vous piéger là-dessus, est-ce qu'on sait déjà s'il y a une tendance à des vacances plus vertes, si on est capable de dire oui, on commence doucement à voyager différemment aujourd'hui, ou est-ce que c'est trop infinitésimal pour le sentir ?
C'est vraiment encore très très limité. Alors on le voit dans certains secteurs, dans le camping notamment, où on commence à avoir des choses beaucoup plus écologiques, dans certains villages vacances. Il y a maintenant un label, je parle de mémoire, pour les clubs de vacances où les données environnementales rentrent en ligne de compte, mais on en est encore très très loin. On est loin de la vaste prise de conscience environnementale et écologique des consommateurs.
Élodie, bonsoir.
Ouh là là.
Ouh là là, Élodie, c'est à vous.
Ouh là là, je ne m'y attendais plus. En ne s'entendant pas du tout concernée du coup par les griefs qui étaient faits sur l'avion, puisque je fais de la randonnée en itinérance en France et consacre mes vacances uniquement à ça, donc pour découvrir tous les paysages somptueux que nous offre notre belle France, et donc du coup voyager à vitesse humaine et non pas à vitesse d'avion. Et donc du coup, c'est juste pour dire que je n'en ressentais pas le besoin de prendre l'avion et d'aller loin, et que c'était un petit peu ma contribution pour limiter mon impact carbone, entre autres, hein, parce que je rejoins le témoignage de Gwenaëlle, je crois, tout à l'heure, sur toutes les petites choses qu'elle pouvait faire au quotidien et dans lesquelles je me retrouve.
Et vous, Élodie, pardon de vous interrompre, vous avez, en général, on se découvre pas randonneuse, vous avez toujours été randonneuse telle que je vous entends, donc ça veut dire que vous n'avez pas changé votre mode de voyage, de loisirs et de vacances?
Oui, c'est tombé un petit peu depuis toute petite, et je passe une petite spéciale dédicace à mes parents sur ce sujet-là. Oui, en effet, c'est depuis toute petite, et avec ma sœur, du coup, on part depuis une dizaine d'années, de façon un petit peu plus intense, avec notre tente sur le dos. Voilà.
Merci beaucoup, Élodie, pour ce témoignage, parce que évidemment, et tant mieux, d'ailleurs, ça plaira aussi à Philippe Cromer, et tant mieux s'il y a des gens qui ont cette volonté de voyager de cette manière-là. Est-ce qu'on peut enlever, ça me paraît compliqué, la notion de sacrifice lorsqu'on décide d'arrêter l'avion? C'est à vous que je vais poser la question, Philippe Cromer, puisque vous avez décidé d'arrêter, vous nous l'avez expliqué partiellement. Est-ce que vous le vivez comme un sacrifice, en fait?
Non, c'est clairement pas un sacrifice. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, en fait, il faut reconstruire l'imaginaire. Moi, c'est un peu comme quand on devient végétarien. quand on devient végétarien, on décide d'arrêter de la viande. Et en fait, on se dit, oh, je vais manger toujours la même chose, je vais manger des pâtes avec des légumes ou des salades ou des soupes. Et en fait, c'est là qu'on va creuser les informations pour essayer de trouver des nouvelles recettes. Et en fait, dans le voyage, quand on décide d'arrêter l'avion et de trouver en fait de nouvelles aventures à vivre, eh bien, c'est là qu'on voit qu'il y a plein d'opportunités. On va partir non pas des destinations, mais on va partir des moyens de transport. On va partir des gares et on va se poser la question, mais attends, si je m'arrête à cette gare de TER, comment je vais pouvoir faire de l'itinérance sur un jour, deux jours, trois jours à vélo ou à pied ou autrement, et rejoindre peut-être un autre moyen de transport pour revenir. Donc en fait, on se recrée des micro-aventures, des courts séjours. La dernière fois, j'ai pris le vélo, je l'ai mis dans le TER, je suis allé jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps et je suis allé faire une journée de permaculture et après j'ai fait un peu la Loire à vélo et après je suis revenu avec le TER et c'était magique. On peut arriver, il y a cette possibilité aussi de faire de l'intermodalité de transport en France et en Europe. Et donc il y a des vrais choix aujourd'hui à faire. Donc la France et l'Europe, c'est un terrain de jeu magnifique. Après, c'est sûr que quand on veut aller découvrir le monde partout à l'international, eh bien derrière, moi, je pense qu'à un moment donné, soit derrière, on fait un grand voyage tous les 3, 4, 5 ans et on absorbe, soit derrière, en fait, on peut aussi faire le deuil de certaines destinations.
Jean-François Rial, je voyais que vous vouliez réagir.
Non, mais le débat est passionnant. Moi, je pense que ce que propose Guillaume...
Et on n'ira pas au bout, c'est ça qui est formidable. Ouais, ça s'appelle la transition, par ailleurs.
Ce que propose Guillaume est intelligent, c'est-à-dire qu'à la fois, on réduit sa consommation de voyage, et quand on en réalise, on absorbe, et non pas on compense. Absorber, ça veut dire directement faire des projets sans passer par des tiers intermédiaires. C'est ça la différence. Bon. Sauf que moi, personnellement, je n'y crois pas. C'est-à-dire que je pense que l'esprit humain ne fonctionne pas comme ça. Pour les quelques-uns qui feront cette démarche très vertueuse de réduire leur consommation et de faire des économies, il y en aura énormément en Chine, en Inde, en Corée, en France, en Espagne, qui augmenteront leur consommation d'avions. Et au final, la conscience écologique sur la baisse de la consommation d'avions sera beaucoup plus faible que l'augmentation générale du trafic. Donc, je pense que ça ne fonctionnera pas et qu'on risque d'aller tellement loin et d'aller tellement à la catastrophe qu'effectivement, un jour, on risque de nous dire qu'on interdit l'avion sur telle et telle destination ou même d'une façon générale. Donc moi, je suis pour une mesure différente qui est de financer la transition le plus vite possible, bien sûr, d'économiser le plus possible, quand on le peut, la technologie, les routes aériennes inutiles, sans pénaliser Air France en enlevant des trains qui ne vont pas à Roissy, par exemple, pour son hub, mais en parallèle de mettre ce que j'appelle ma fameuse contribution planète, qui est une forme de taxe carbone limitée, mais qui absorbe directement du CO2.
Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, Jean-François Rial, si demain on taxait le kérosène, parce que c'est le grand sujet, si demain on taxe le kérosène, est-ce que ça veut dire que chacun de vos voyages prend combien?
Alors ça dépend du montant. Mais ce dont on discute, c'est une taxe carbone qui varierait entre 60 et 250 euros la tonne. Alors, je pense que ça aurait une vraie impact sur la consommation d'avions, c'est-à-dire que les low cost ou les destinations les moins chères, les voyages les moins chers souffriraient énormément. Voyageurs du monde seraient probablement pas touchés parce que nous on est sur des budgets plus élevés et une clientèle plus élevée. Donc en disant que cela, ce que je propose, je prêche pas du tout pour ma paroisse, plutôt l'inverse même. Mais c'est ce qu'on risque d'avoir si on n'est pas capable de proposer une solution qui permette à l'industrie aérienne de rentrer dans le cadre des objectifs du GIEC.
Philippe.
Alors, moi, j'ai une double question. Vous parlez de contribution planète, de taxe carbone, Jean-François Rial. Moi, je suis client. Ça va me coûter combien? Et est-ce que ça va pas devenir un autre machin qui sera un peu l'équivalent de la taxe Chirac? Vous savez, c'est la taxe sur les billets d'avion qui devait aider les pays défavorisés. Ouais. Au total, 60 pays devaient la payer. Ouais. Il y en a 8 qui l'ont payé. On sait pas ce qu'est devenu cet argent. Il y a eu à peu près 110 millions payés par la France sur 116. Est-ce qu'on n'est pas là aussi en train de se tirer une balle dans le pied?
Alors, la taxe Chirac était un outil absolument génial, que j'ai défendu pendant des années, mais je ne vais pas revenir dessus, sinon il faudrait une deuxième émission.
Mais c'est
vrai qu'elle a été dévoyée dans ses objectifs et dans ses revenus. Et là, vous avez totalement raison, Philippe. C'est-à-dire que si on met en place une contribution planète qui a pour vocation à absorber le carbone émis, il est évident qu'il faut sanctuariser cet argent. Si on ne le fait pas et qu'on ne le met pas dans les mains de gens compétents pour réaliser ces projets d'absorption de carbone, on va directement dans le mur. C'est pour ça que je suis pas favorable à la taxe carbone. Parce que la taxe carbone, elle est fiscale.
Juste qu'on rappelle pour les gens qui nous écoutent, la taxe Chirac, c'était une taxe solidaire sur les billets d'avion.
Voilà, qui permettait de financer les objectifs du développement du millénaire. Par l'additionnalité, je dirais, des budgets d'aide au développement. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, la taxe kérosène, le danger qu'elle a, la taxe carbone, c'est que elle alimente le budget fiscal de l'État sans baisser les impôts par ailleurs et sans absorber de carbone. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que l'industrie aérienne, si vous voulez, le problème qu'elle a, c'est qu'elle ne peut pas être substituée par quelque chose qui technologiquement lui
non,
émettrait
non, non, mais ce qu'on dit aux compagnies aériennes, c'est vous polluez trop, donc puisque vous polluez trop, il va falloir payer puisque vous polluez. À partir du moment où les billets sont plus chers, où c'est plus compliqué de faire des vols, il y en a moins, on réduit les vols, le court courrier ou les moyens courriers, etc.
Moi, ça me gêne pas, ça.
Non, mais
moi,
le principe, c'est ça.
Ce qui me gêne, c'est pas tellement ça. Ce qui me gêne, c'est qu'on n'utilise pas cet argent pour éviter les émissions de l'industrie aérienne. Parce que l'industrie aérienne, même si vous mettez une taxe, quelle qu'elle soit, elle va continuer de croître. J'en suis certain, moi.
On a une question. J'imagine que cette question, vous la posez, Philippe Cromer. Beaucoup des gens qui travaillent avec vous et qui partaient en vacances grâce à vous, quid des trains plus auto ou des autocouchettes qui ont pour la plupart disparu, alors qu'ils l'ont fait aussi parce qu'il y a une question de rentabilité, mais les préoccupations des gens sont différentes aujourd'hui. Est-ce que c'est une question qui revient souvent? Est-ce que ça changerait beaucoup de choses dans notre manière de voyager sur des distances plus courtes si on remettait au goût du jour ces trains-là? Je sais que la Belgique, par exemple, veut réhabiliter les trains de nuit.
Clairement, il faut réinvestir massivement dans les trains de nuit en France, en Europe. C'est vraiment la solution qu'on a aujourd'hui. Et si derrière on veut contrer les low cost qui explosent de partout, avec parfois des subventions déguisées de la part des territoires, c'est pas dans le sens de l'histoire. Dans le sens de l'histoire, c'est clairement de pousser le train massivement, de faire en sorte qu'on ait des trains de qualité, des trains de nuit de qualité, comme on a pu le voir dans d'autres pays. Et à partir de là, en fait, on va repenser encore une fois, en fait, notre manière de voyager. Parce que si on n'a pas d'alternative, forcément, les gens, ils vont aller vers du low cost, où on va pouvoir faire une partie de l'Europe pour 30€ aller-retour avec certaines marques. Et je pense que ça, c'est pas du tout ce qu'il faut, quoi.
Et précisément, Fabienne est là. Bonsoir, Fabienne.
Bonsoir.
Allez-y.
Ben justement, c'est exactement ce que je voulais dire. Une anecdote, j'étais chez une amie à Bristol et elle a une maison au large de Faro, au Portugal. Elle cherchait un vol et elle a trouvé un vol avec un low cost à 13€ aller et à peu près 45 ou 50€ retour. Et je sais d'expérience d'amis qui l'ont fait qu'à partir de l'Angleterre, je ne sais pas si c'est le même cas en France, on peut aller passer un week-end en Europe de l'Est, aller boire beaucoup. Pour
bien sûr, c'est le cas
sous.
Aussi.
On dépense plus en bière qu'en avion, hein, ça c'est sûr. Ouf. Mais j'aimerais bien amener un élément. Mon mari et moi avons l'intention d'aller à Berlin. Et un Berlin aller-retour pour deux avec SNCF, c'était autour de 400€. Et ce matin, j'ai trouvé sur Deutsche Bahn un aller-retour pour deux à 198€. Donc il y a aussi le fait que le train peut être vraiment un facteur de non-choix, en fait. Mm-hmm. Moi, j'adore le train.
Tant mieux. Moi, je suis fille de cheminot, j'aime le train aussi, mais je reconnais comme vous que les prix sont très curieux, en tout cas
mais
très
ils
changeants.
Ils sont curieux parce que les gens ne comprennent pas comment ils marchent. C'est pas parce que vous avez un Bristol Faro à 13€ que la moyenne du Bristol Faro va être à 13€. Les gens ne retiennent que l'exemple qui va se produire une fois tous les 6 mois pendant 5 ans. Et vous imaginez bien que les Ryanair et les EasyJet...
Mais c'est pas déjà ça, Jean-François Rial?
Non, parce que si vous voulez, en moyenne, ces gens vendent à des prix qui sont beaucoup plus élevés. C'est ce qu'on appelle le yield management. Ce qui fait que lorsque vous avez un train qui est vide ou un avion qui est vide, ben vous vendez beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez, ces exemples-là pour dire qu'il faut privilégier l'avion au train ou l'inverse, d'ailleurs, ne sont pas des bons exemples. C'est comme d'ailleurs l'exemple du train. Moi, le train de nuit, tout ça, je trouve ça génial, ce que raconte Guillaume Cromer. Sauf que les trains de nuit en Allemagne, ils sont extrêmement carbonés et peut-être plus que l'avion sur des avions de haute technologie. Donc, il faut qu'on garde raison dans cette affaire. Et par exemple, si on met en place des suppressions de liaisons aériennes sur la France, comme certains l'ont proposé, eh bien pourquoi pas, mais il faut qu'on alimente le hub de Roissy. Sinon, les gens des régions vont aller dans les capitales européennes en avion.
Pourquoi il faut augmenter le hub de Roissy?
Mais parce que prenez une liaison Bordeaux-Paris. Il y a des gens qui font du point à point. Pas de problème. Cela,
Bordeaux-Paris, 2 heures de TGV.
Voilà, vous pouvez les passer en train plutôt que de l'avion. Pas de problème. Mais s'ils vont à Rio et qu'ils passent par Paris, les gens de Bordeaux.
C'est plus loin.
Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas une connexion sur Roissy, ils vont aller à Amsterdam en avion, à Londres en avion. Donc, vous allez avoir un bilan CO2 qui va être moins bon. Et vous allez pénaliser la compagnie française aérienne. Donc, à un moment donné, il faut faire des choses intelligentes. Oui, pour privilégier le train. Mais dans ce cas-là, vous allez jusqu'au bout de la logique. Vous mettez des liaisons sur Paris-Centre, mais vous en mettez aussi sur Roissy pour alimenter le hub, qui permettra à Air France de se passer de ses vols intérieurs. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais si, sinon vous allez augmenter de bilan CO2.
Là aussi, Jean-François Rial, je vous entends prêcher pour votre paroisse, non, et vous avez le droit en même temps, mais j'entends quand même beaucoup ça. Sylvie, bonsoir.
J'ai pas d'intérêt là-dedans. Hein.
Sylvie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Moi, je voulais vous faire part d'un témoignage. Ça fait 5 ans qu'on ne prend plus d'avion pour aller en vacances. Et qui plus est, on ne prend pas de voiture non plus. On fait nos vacances en train et à vélo. On habite Grenoble et donc on prend le train à Grenoble. Et on est allé 3 fois dans le nord de la France, donc jusqu'à Paris en TGV. Très bien, avec nos vélos, nos sacoches, etc. Et cette année, on voulait aller en vacances en Bretagne. Et il n'est plus possible de mettre les vélos non démonté dans le TGV. Il n'y a plus de réservation possible de place à vélo pour les vélos dans le TGV entre Grenoble ou Lyon et Paris. C'est pas très facile en fait d'avoir des vacances éco-responsables.
Et merci pour ce témoignage, Sylvie, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple, Guillaume Cromer. On le disait tout à l'heure sur effectivement certaines liaisons ferroviaires qui disparaissent. Là, Sylvie demande pas grand chose, juste pouvoir mettre son vélo dans le TGV. Ça n'existe pas. Pas ou plus, d'ailleurs.
Ça n'existe plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de démonter le vélo et de le mettre dans une grande sacoche. Mais dans les TER et les intercités, c'est possible, mais les places sont limitées. Dans les intercités, il faut réserver sa place et ça coûte 5 euros. Dans les TER, on n'a pas besoin de réserver, mais c'est très limité. Et s'il y a trop de monde, on n'a plus le droit de monter le vélo dans le train.
J'aime bien ce que dit Sylvie sur l'idée que c'est pas facile. Si on veut vraiment avoir des vacances écolo-responsables, c'est pas si simple en fait. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air.
C'est clair que sur ça, en tout cas, sur l'intermodalité de transport, c'est assez compliqué, alors que ce serait vraiment top. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables de le faire. En gros, pour faire du Grenoble-Bretagne, il faut faire Grenoble-Saint-Pierre-des-Corps, Grenoble-Lyon, Lyon-Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, Angers-Rennes, avec que des TER tout le long. Et voilà ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire 4 trains, ce qui coûte aussi un peu cher.
Bien sûr.
Mais derrière, il y a des possibilités. Mais c'est quand même, ça devient une vraie aventure derrière, en fait, de voyager, de faire du slow tourisme en France. Et ça ne devrait pas l'être. Et je pense que si, encore une fois, on investit massivement dans le train pour moderniser, mettre beaucoup plus de place pour les vélos, etc. Si on modifie derrière en fait l'infrastructure, les gens vont y voir aussi une opportunité. C'est ce qui s'est passé à Copenhague quand on a développé toutes les infrastructures en fait de la ville pour le vélo. Les gens ont commencé à utiliser massivement le vélo. Faisons pareil en France.
Tiens, j'ai 2 questions pour vous, Jean-François Rial. Il y a celle de Jeanne qui dit « mais les arbres, ça met des décennies à pousser ». Et il y a celle de Raphaël qui dit « on les plante tous, les arbres, les fameux 30 milliards d'arbres, sachant qu'on déboise de plus en plus chaque année ».
Alors, 2 questions très intéressantes. En réalité, les 5 premières années de croissance d'un arbre vous absorbent à peu près 80% du CO2 que va absorber globalement un arbre. Donc soit vous considérez que vous cumulez le CO2 absorbé lorsque vous plantez votre arbre et au bout de 5 ans vous êtes juste, et même plus que juste, que vous avez lâché 20%, soit vous prenez que la quote-part de chaque année de ce que l'arbre absorbe. Donc c'est un faux problème et c'est très facilement résolu. Deuxièmement, c'est pas 30 milliards d'arbres qu'on peut planter. Ça c'est juste pour l'industrie aérienne à 100%, c'est 1300 milliards. Allez voir le site de l'Institut Polytechnique de Zurich qui a voulu mesurer le nombre d'arbres qu'il restait sur la planète parce qu'on pensait qu'il en restait 400 milliards. Eh bien on s'est aperçu par des photos satellitaires qu'il en restait 3000 milliards, et il a donc déterminé les endroits où on pourra planter. Et au passage, je glisse une bonne
rapidement.
Nouvelle, je crois que le nombre d'arbres pour la première fois de l'histoire de la planète vient d'augmenter. malgré la déforestation délirante qui peut produire.
Et ça dépend où, puisqu'on a vu récemment qu'au Brésil, par exemple, on recommence à déforester sur l'influence du nouveau président. Hugo, c'est vous le dernier, vous avez un joli paradoxe à nous montrer.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Merci pour cette émission. Oui, je voulais souligner le paradoxe selon lequel, pendant toute mon enfance, mon adolescence et même mes études, j'ai la petite trente-tête, on m'a dit le voyage, c'est l'ouverture, il faut s'ouvrir sur le monde, parler plusieurs langues, aller à la rencontre des autres, etc. On nous a même poussé à faire Erasmus dans ma génération. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais c'est pas très responsable de voyager, il faut plus prendre l'avion, c'est plus possible. » Voilà, donc c'est vrai que c'est difficile à entendre et à vivre avec cette contradiction où maintenant j'ai envie et puis j'ai la petite trentaine, donc ça y est, j'ai enfin les moyens de voyager. Et aujourd'hui, on me culpabilise de le faire, alors pendant des années, on m'a encouragé à le faire, alors même que j'avais pas forcément les moyens de le faire.
Merci beaucoup, Hugo, pour cette remarque, parce que vous avez raison, Jean-François Riel. Il a raison, on est dans encore une fois, on parle de transition écologique, c'est difficile pour chacun. On est dans une vraie période d'injonction contradictoire, au fond.
C'est pour ça que je propose cette fameuse contribution planète. J'insiste dessus, parce qu'elle permet de garder l'activité économique, de garder l'utilité sociale tout en supprimant les effets négatifs de l'industrie. Ce qui signifie pas qu'il faut pas faire des économies qui sont nécessaires lorsqu'on peut les faire avec la technologie, les liaisons inutiles, etc., etc. Bien sûr.
Guillaume Cromer, je vous laisse là-dessus le mot de la fin, si vous le voulez bien. Cette injonction contradictoire qu'Hugo a le sentiment de vivre aujourd'hui dans cette période de transition, comment on arrive à la résoudre selon vous?
Ça fait des années qu'on nous pousse à la croissance économique, et pourtant depuis 1972, le rapport Meadows nous dit qu'il y a des limites à la croissance. Donc à partir du moment, il va falloir quand même qu'on se pose des questions, et de manière peut-être radicale, qu'il va falloir changer.
Eh bien, les questions, on les pose justement dans le téléphone sonne. Merci à tous d'avoir répondu à ces questions. Merci à tous d'avoir téléphoné, encore très nombreux en ce lundi de Pentecôte. Portez-vous bien.